Tout l'honneur et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Tout l'honneur et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia, louons-le. Magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi de gloire, louons-le, magnifions-le. Le nul n'est comparable à lui. Lui éternel, vraiment, nul n'est comparable à toi. Il a écrit de toi à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Nous voici encore devant toi. Devant ton trône de gloire, nous voici encore prosternés devant toi pour te dire merci. Merci pour ce début de cette journée. Merci pour ce nouveau jour, Seigneur éternel. Merci pour ta présence. Seigneur Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour la méditation du jour parce que c'est toi qui vas parler au travers de nous. C'est toi qui nous permet toujours de glorifier le Seigneur. C'est toi qui prends toujours de notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'il faut pour nous l'annoncer. Et nous te disons merci. Merci pour ce grand travail. Merci parce que tu es notre hôte. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons et nous ne sommes rien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, sœurs et frères de la plateforme Bible Méditée pour une vie gagnée. Et shalom, shalom à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est le lundi 19 juillet 2021. Et nous méditons Marc au chapitre 4. Nous sommes vos frères. Orphée des États-Unis, Almée du Congo-Brazzaville et la sœur Caroline du Togo. Chers bien-aimés en Christ, nos thèmes de méditation sont les suivants. Que retenir de Marc au chapitre 4? Et quelle explication donner au verset 12 de notre chapitre Marc au chapitre 4. Chers bien-aimés en Christ, ce chapitre est parsemé de langage imagé des paraboles qui reflètent l'enseignement de Jésus-Christ au bord de la mer. En gros, en résumé, nous trouvons dans ce chapitre quatre grandes paraboles qui sont d'abord celles du semeur, donc de la semence et des terres qui ont reçu cette semence. La semence est la bonne parole de Dieu. Le semeur, c'est Dieu lui-même. Et la terre, c'est le cœur ou mieux encore l'état d'âme de la personne qui entend la parole. Qui reçoit la parole. Dans cette première parabole, il existe quatre types de personnes. Il existe quatre types de personnes. Il est dit des premiers que la semence est tombée le long du chemin, c'est-à-dire qu'on entend la parole aussitôt, Satan s'est pointé et a enlevé cette parole qui a été semée en eux. Les seconds ont reçu la parole dans des endroits pierreux avec joie, mais n'ayant pas de racines ni de persistance, lorsqu'ils se heurtent à une tribulation ou à une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Le troisième groupe de personnes sont celles qui reçoivent la semence, la parole donc, dans des épines. Et ces épines sont les soucis de tout genre, les soucis du siècle, la séduction des richesses et beaucoup d'autres convoitises. Toutes ces épines viennent envahir, viennent étouffer la parole en eux, ce qui fait qu'elle ne porte pas de fruit en eux. Puis vient le lot de ceux qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Eux, ils entendent la parole, ils reçoivent la parole et ils portent des fruits, 30, 60 et 100 pour un. Notre Seigneur Jésus-Christ poursuit son enseignement en parlant d'une lampe. Dans le psaume 119 au verset 105, nous lisons: Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole dont parle notre Seigneur Jésus-Christ dans son enseignement ici, en poursuivant cet enseignement, la parole n'est, la lampe n'est autre que la parole. On apporte la lampe pour la mettre sur le chandelier, pas pour la cacher. Et rien de secret n'existera sans qu'on ne le sache. Sachons prêter oreille à la parole de Dieu. Sachons, pardon, prêter oreille à la parole de Dieu. Prenons garde à ce que nous entendons. C'est à force d'écouter, de mettre la parole en pratique, que nous serons affermis et nous évitons ainsi la paresse spirituelle qui nous retient des fois dans cet exercice de vie, dans cet exercice spirituel. Notre Seigneur Jésus-Christ parle ensuite du royaume de Dieu comme un homme qui jette la semence en terre. Que cet homme dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc le royaume de Dieu évolue. Le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu suit son cours, qu'on le veuille ou non. Nous ne pouvons rien faire pour arrêter le royaume. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ va comparer ce royaume à un grain de sénevé, la plus petite de toutes les semences qui soient sur terre, mais qui, semée, monte et devient plus grand que tous les légumes. Par conséquent, le royaume de Dieu est réel et vrai, comme au temps de Noé, par exemple. Noé parlait en construisant l'arche, mais tout le monde de son temps s'en moquait. Il se moquait de ce vieux qui trouvait peut-être pas bien dans ses pensées. Mais quand Dieu ferma l'arche, tout fut clair à leurs yeux. Noé fut vu normal et 10 heures de vérité divine. De nos jours aussi, le royaume de Dieu est là. Nous en parlons à qui veut nous entendre. Mais les gens à qui nous parlons, à qui nous prêchons la parole, à qui nous prêchons le royaume de Dieu, ne c'est pas tout le monde qui comprend. Il y en a qui s'en moquent. Mais le royaume de Dieu est là, il suit son cours. Parlons-en autour de nous.
Même si des gens se moquent de nous, proclamons-le et précisons que c'est le royaume qui aura le dessus, qu'on le veuille ou pas. La fin de notre chapitre d'étude, c'est-à-dire Marc au chapitre 4, nous parle de la tempête apaisée. Ce fut un soir où notre Seigneur Jésus dit, passons à l'autre bord. À ces mots, les disciples l'amenèrent dans la barque où il se tenait. Puis ce fut la tempête, un grand tourbillon et des flots qui rentrent dans la barque. Et cette barque se remplissait d'eau. Notre Seigneur Jésus-Christ dormait, lui dormait paisiblement. Les disciples le réveillèrent et lui dirent que la tempête est là. Ne s'inquiète-t-il pas de leur mort, de leur sort? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ menaça, pardon, le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Alors, ce fut un calme, un grand calme, et le calme revint. Notre Seigneur Jésus leur demanda, pourquoi n'avez-vous point de foi? Bien-aimés en Christ, dans les tempêtes de nos vies, c'est la même question que notre Seigneur nous pose. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Et souvent, s'il arrive que on se cherche, on doute, on ne sait quoi faire, c'est la question qui nous revient. Et nous pouvons aussi nous poser cette question. N'avons-nous pas de foi? Ne nous sommes pas appelés à ne vivre que par la foi? Bien-aimés en Christ, aucune situation ne peut tenir devant la foi. C'est la foi qui est notre vie. Et la foi fait aussi appel à prier la parole devant chaque montagne, dans n'importe quelle situation. Utilisons le mystère de la foi. Sortons de nous, de notre cœur, une parole, une promesse, des paroles, des promesses de Dieu. Et proclamons-les, prions-les et croyons que cela va s'accomplir, car les promesses de Dieu, les paroles de Dieu sont toutes oui et amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Pour la seconde question qui nous demande de savoir quelle explication donnons-nous au verset 12 de Marc au chapitre 4. Qu'est-ce que dit? Que dit ce verset? Ce verset dit, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Amen. Ce verset 12 ne doit pas nous déconcerter, nous surprendre, nous faire poser mille et une questions comme si le Seigneur, notre Seigneur Jésus, pouvait craindre de voir les hommes se convertir ou qu'ils soient obligés, malgré lui, de pardonner leurs péchés. De quoi parle ce verset? De quoi parlerait ce verset 12? Au fait, ce verset parle du peuple juif. Dans son ensemble, souvenons-nous du chapitre précédent qui a été notre objet d'étude le samedi passé. Ce chapitre 12 parle du peuple juif dans son ensemble. C'est de ce peuple juif dans son ensemble qu'il s'agit ici. Ce peuple a, souvenons-nous, accusé notre Seigneur Jésus d'avoir un démon, rejetant aussi le témoignage du Saint-Esprit. Un tel péché ne peut donc lui être pardonné. Ce type de péché ne peut pas être pardonné à ce peuple. Et c'est ainsi que Israël va s'endurcir en tant que peuple. Son cœur s'est endurci. En effet, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc 3 au verset 29. Dans Romains 11 au verset 25, nous pouvons lire ce qui suit. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Oui, par ce péché, ils se sont condamnés eux-mêmes, ne pouvant pas être pardonnés. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que la totalité des païens que nous sommes entrés dans et le plan ultime de salut de Dieu. Mais tous ceux qui désirent parler avec Jésus en particulier trouvent toujours leur place autour de lui. Chers bien-aimés en Christ, soyons de ceux-là qui désirent être avec Jésus, afin d'entendre auprès de lui la révélation des mystères du royaume de Dieu. Usons de ce grand privilège que nous avons. Approchons-nous de ce grand privilège. Accrochons-nous à ce privilège. Attachons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ de tout cœur. Et nous mettrons de temps à part pour le Seigneur. Mettons donc des temps à part journalièrement pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour écouter sa parole, pour l'écouter. Shalom, shalom, shalom.